question dont la réponse en surprendra quelques-uns. L'homme est-il capable d'arriver à la paix par ses propres forces? Les Saintes Écritures vont nous répondre clairement à ce sujet aujourd'hui à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, on va connaître des personnages bien intéressants aujourd'hui au cours de l'émission. Je vous invite à sortir vos Bibles et à suivre avec moi l'enseignement qui nous sera donné dans l'Apocalypse suite aux questions que voici. Quel est le premier personnage à être introduit au son de la 7e trompette de l'Apocalypse? Est-ce que c'est la Vierge Marie? Est-ce que c'est l'Église de Jésus-Christ? Est-ce que c'est la nation d'Israël? Pourquoi Jésus est-il appelé Prince de la paix? L'homme est-il capable d'arriver à la paix par ses propres forces? La nation d'Israël reconnaîtra-t-elle le Messie un jour? Comment se fait-il que cette nation a réussi à survivre malgré toute la haine qu'elle a subie à travers les siècles? Quel est le deuxième personnage à être introduit au son de la 7e trompette de l'Apocalypse? Restez à l'écoute, le pasteur Régent Joly a sorti sa Bible et il commencera l'enseignement de cette Bible au 12e chapitre, premier verset de l'Apocalypse dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Oui, Seigneur, tu vas nous introduire à des personnages. Aide-nous, Seigneur, à bien comprendre ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui. Parle à nos cœurs, Seigneur, qu'à travers ces personnages, on découvre le plus grand personnage qui soit, le Seigneur Jésus, celui que tu as donné en rançon pour nos fautes. Touche nos cœurs par ta parole, ô Dieu. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Chers amis, nous continuons notre étude de l'Apocalypse au chapitre 12. Les sept principaux acteurs de la grande tribulation. Le thème de ce chapitre est le conflit final opposant Israël à Satan après que ce dernier ait été chassé du ciel. Cette série de sept éléments est introduite par le dernier élément de la dernière série. Ici, le premier personnage est introduit au son de la 7e trompette. Ces sept personnes nous seront décrites au chapitre 12 et 13. Même si la 7e trompette signale la fin de la grande tribulation et du millénium pour nous conduire aux confins de l'éternité, beaucoup de détails ont été omis pendant ce survol. Nous revenons donc un peu en arrière avec la description de ces sept personnes jouant un rôle important pendant la grande tribulation. Ensuite, nous aurons une dernière série de sept éléments constitués de coupes de colère. Viendra alors la destruction de Babylone, la commerciale, et la Babylone, la religieuse. Au cours de cette séquence, la nation d'Israël paraîtra au premier plan. Déjà, au dernier chapitre, cette emphase sur Israël était suggérée par la mesure des dimensions du temple sur la terre et l'ouverture du temple dans les cieux. Les sept personnages représentent des personnes autant naturelles que surnaturelles, autant physiques que spirituelles, autant isolées que corporatives. L'identification claire de ces acteurs est essentielle si nous voulons bien comprendre le livre de l'Apocalypse. La femme, Israël. Dès le début de cette séquence, nous verrons à quel point une identification exacte de ces personnes est essentielle. Car, avec cette première personne, la clé de l'interprétation de tout le livre de l'Apocalypse nous est donnée. Certains enseignants de la Bible ont même émis l'opinion qu'on pouvait reconnaître un système d'interprétation des prophéties bibliques en sachant comment il identifiait cette femme. Cela n'est pas une exagération, car l'identification de cette femme révèle comment nous interprétons le livre de l'Apocalypse. Chers amis, débutons notre lecture, Apocalypse chapitre 12, versets 1 et 2. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait. étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. La question est de savoir qui est cette femme. Certaines dénominations d'Église prétendent qu'elle représente la Vierge Marie. Et même dans quelques églises chrétiennes, on a exprimé le même avis. Mais la plupart des commentateurs ont suggéré que cette femme représente l'Église à travers les siècles. Plusieurs fondatrices de cultes n'ont pas pu résister à la tentation de se voir elles-mêmes décrites dans ce portrait. Par exemple, Joanna Sukkot a affirmé être cette femme. Elle a annoncé qu'au mois d'octobre 1814, elle serait enceinte de cet enfant. Elle ne l'a jamais eu, mais elle a quand même attiré à elle 200 000 disciples. Aux États-Unis, plusieurs fondatrices de cultes et religions diverses croyaient être cette femme, mais c'était faux. Or, pour effectuer une approche intelligente de l'interprétation de ce passage, nous devons commencer par nous demander si cette femme doit être interprétée au sens littéral ou comme un symbole. Les habitués savent déjà que je favorise généralement l'interprétation littérale des prophéties de la Bible. Je consens à opter pour l'approche symbolique seulement si l'élément en question est clairement identifié comme un symbole, soit dans notre passage du livre de l'Apocalypse, soit dans un autre passage de la Bible contenant le même élément. Ici, au départ, la femme est clairement décrite comme un signe, c'est-à-dire un symbole. L'approche symbolique est donc non seulement permise, mais elle s'impose. Or, et je reste intraitable là-dessus, un symbole doit toujours représenter quelque chose ou quelqu'un de concret. On ne peut pas dire qu'il s'agit d'un symbole sans chercher à le comprendre. Et pour bien comprendre la signification de ce symbole, nous devons rechercher quelles sont les caractéristiques de cette femme mentionnées dans notre passage. Nous en avons trois. Le soleil, la lune et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Pourquoi Israël? Nous obtenons un premier indice qu'il pourrait s'agir de la nation d'Israël en nous rappelant le rêve de Joseph que nous pouvons lire dans Genèse chapitre 37, les versets 9 et 10. Il eut encore un autre songe et il le racontait à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Puisque Joseph est lui-même la 12e étoile, c'est-à-dire un des 12 fils de son père, Jacob, le compte y est. Nous avons le soleil, la lune et les 12 étoiles. Jacob, qu'allait devenir Israël, pensait que le soleil et la lune le représentaient, lui, sa femme, et que les 11 étoiles représentaient les 11 frères de Joseph. Bien sûr, il n'aimait pas vraiment l'idée d'avoir à se prosterner devant son fils. Cette femme est un signe venant du ciel, même si elle accomplit sa mission sur la terre. Elle n'est pas une femme à proprement parler. Elle est un symbole. Car aucune femme n'est enveloppée du soleil, ne porte la lune à ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. La mission de cette femme correspond à la mission du peuple d'Israël. Cette mission était de donner naissance au Messie, Jésus-Christ. Celui-ci est l'enfant sur le point de naître dans notre passage. Au cours des célébrations de Noël, nous aimons utiliser Ésaïe chapitre 9 verset 6 et d'autres versets de la Bible. Bien que le sujet de ce verset soit effectivement la naissance de Jésus-Christ, il ne parle pas de l'Église, mais plutôt de la nation d'Israël. Lisons-le. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » À qui le pronom personnel « nous » fait-il référence dans cette phrase? Car un enfant nous est né? Plusieurs seront tentés de répondre à l'Église, mais il n'en est rien. C'est la nation d'Israël qui est visée ici. Selon toute évidence, le prophète Ésaïe s'adresse à Israël, et celui dont il parle n'est pas un sauveur, mais un gouverneur qui domine sur ses sujets, tel un prince. Il devait venir pour régner sur eux. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On note ici une chose très intéressante. En tant qu'être humain, il est né comme un enfant. Mais en tant que Fils éternel, il nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Nous ne parlons donc pas d'un sauveur, mais de celui qui devait venir régner sur son peuple. Une paix illusoire. Cette prophétie sur Israël ne s'est pas encore accomplie, mais le sera pendant la période décrite ici dans le livre de l'Apocalypse. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Pourquoi est-il appelé le Prince de paix? Parce qu'une paix durable est un objectif irréalisable sans lui. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Au début de la Première Guerre mondiale, des délégués de plusieurs pays s'étaient réunis en Hollande en conférence de paix lorsque la guerre s'est déclarée. La plupart des représentants ont presque perdu leur emploi avant même de revenir au pays. Quand les hommes parlent de paix et de sûreté, ce ne sont que des paroles en l'air, parce que l'homme est incapable d'arriver à la paix en travaillant de l'extérieur. Car tout conflit extérieur vient d'un conflit intérieur entre l'homme et Dieu, et les guerres sont seulement l'expression de cette condition de péché. La racine du problème réside dans le cœur de l'homme, et seul Jésus peut lui apporter la paix. Mais tant que l'homme refusera de reconnaître la gravité réelle de son état spirituel, il cherchera la paix par ses propres forces et il vivra dans la défaite même s'il parvient à dominer son environnement extérieur. Jésus est le Prince de paix et le prophète Ésaïe s'adresse à la nation d'Israël lorsqu'il annonce « car un enfant nous est né ». L'apôtre Jean a cette prophétie en tête lorsqu'il écrit l'épisode dont nous parlons ici dans l'Apocalypse. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, quant à lui, enseigne au chapitre 7, verset 14, « Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. » Et l'apôtre Paul écrit, dans sa lettre adressée aux Romains, chapitre 9, verset 4 et 5, « Qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. » L'apôtre Paul parle ici de la nation d'Israël. Il commence en posant la question, « Qui sont les Israélites ?» Il répond lui-même à cette question, « De qui est issu, selon la chair, le Christ ?» Une autre prophétie de l'Ancien Testament concernant Jésus se trouve dans Michée, chapitre 5, versets 1 et 2. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. » Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Dans ces deux derniers versets, on remarque que Jésus naîtra à Bethléem, mais que ses activités remontent au jour de l'éternité. D'une certaine façon, Jésus est sorti de l'éternité pour pénétrer dans notre univers temporel limité par la séquence à sens unique passé, présent, futur. Il est venu marcher parmi nous, comme un berger pénètre dans une forêt remplie de bêtes sauvages afin d'appeler à lui ses brebis. Et un jour, il jugera ses brebis, qu'il connaît et qui le connaissent, ainsi que les bêtes sauvages qu'il ne connaît pas et qui ne le connaissent pas. Un étrange accouchement, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Le travail de l'accouchement est aussi associé à Israël en plusieurs endroits de l'Ancien Testament et particulièrement dans le livre du prophète Ésaïe. Écoutez le cri de douleur collectif de la nation d'Israël dans Ésaïe chapitre 26, versets 17 et 18. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs, « Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel !» Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas nés. Par ses propres forces, Israël était incapable d'inaugurer l'âge messianique en accouchant du Messie promis dans les prophéties. Le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas nés de nouveau. Cette prophétie s'accomplira seulement au temps de la grande tribulation. Elle concerne Israël et non pas l'Église. Car comment l'Église pourrait-elle enfanter Jésus-Christ alors que lui-même a engendré son Église? Mais au temps fixé par Dieu, cette prophétie s'accomplira, comme on peut le voir, dans le prophète Ésaïe, chapitre 66, versets 7 et 8. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Une autre fois, l'image de l'accouchement est utilisée et appliquée au peuple d'Israël. Mais nous assistons ici à un contraste saisissant. Dans le premier passage, Israël éprouve les douleurs de l'enfantement sans pouvoir accoucher car il peine par ses propres forces. Mais dans le deuxième passage, au temps fixé par Dieu, elle accouche du Messie promis sans même avoir éprouvé les douleurs. Nous pouvons donc identifier cette femme avec le peuple d'Israël. Nulle femme ayant vécu, même pas la Vierge Marie, ne répond mieux à la description qui nous est donnée. Une femme ne peut pas en même temps coucher avec et sans douleur. Il ne s'agit pas non plus de l'Église à travers les siècles. Ne perdons pas de vue le fait que, pendant la grande tribulation, les chrétiens ne sont plus sur la terre. Ils ont été appelés par Jésus-Christ et ils sont montés vers lui. Cette femme n'est donc pas l'Église à travers les siècles. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Voici une autre raison pour laquelle cette femme ne peut pas être l'Église. Car lorsque Jésus-Christ est né, il y a 2000 ans, l'Église a été délivrée. Mais la nation d'Israël se trouve encore en travail et dans les douleurs de l'enfantement 20 siècles plus tard. Car elle ne reconnaît pas l'enfant qu'elle a mis au monde. Or, au temps de la grande tribulation, Dieu ouvrira les yeux des Juifs et Israël reconnaîtra enfin le Messie qu'elle a porté en son sein. Non seulement Israël a-t-il souffert d'attendre la délivrance du Messie promis, mais en plus, les Juifs ont souffert les persécutions des nations. Je défie tout historien d'identifier une nation qui était plus persécutée qu'Israël et qui ait quand même réussi à survivre malgré toute cette haine implacable et récurrente à travers les siècles. Seule la puissance de Dieu a pu permettre un si grand miracle. Si Dieu en avait vraiment fini avec Israël, cette nation se serait évanouie depuis longtemps dans la nuit des temps. Car beaucoup d'autres civilisations, beaucoup plus puissantes, n'ont pas survécu au passage des siècles et des millénaires. Mais Dieu n'en a pas fini avec Israël, et la survie de ce peuple, malgré ses infidélités, constitue une autre preuve de la fidélité du Dieu de l'Alliance. Le dragon rouge, Satan, la deuxième personne à nous être présentée dans cette série, est beaucoup moins engageante que la première. Il s'agit du dragon rouge. Il y a quelques décennies, pendant la guerre froide, certains commentateurs chrétiens n'ont pas pu résister à la tentation d'identifier ce dragon rouge au gros méchant communiste chinois. Je l'ai dit et je le répète. En essayant de faire conformer les événements décrits dans l'Apocalypse à l'époque où nous vivons, nous risquons de paraître ridicules aux yeux des générations futures. Je ne dis pas que la grande tribulation viendra seulement dans quelques siècles, et je ne dis pas que c'est pour demain. J'avoue simplement mon ignorance, car la Bible n'enseigne rien sur ce sujet. Revenons à notre texte. Lisons Apocalypse chapitre 12, verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. un autre signe parut encore dans le ciel. Une autre fois, l'apôtre Jean ne nous laisse pas nous poser la question. Est-ce un symbole ou pas? C'est un signe, donc un symbole. Pour ce qui est d'identifier ce symbole, nous aurons beaucoup moins de travail que précédemment. Car le dragon rouge est clairement identifié comme étant Satan, plus tard au verset 9. « Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Dans un monde qui s'éloigne de plus en plus de Dieu, on peut s'attendre à ce que la popularité de Satan augmente. Nous sommes même rendus au point où l'expression « c'est l'enfer » désigne un endroit où il fait bon vivre. Mais dans l'Apocalypse, Satan et l'enfer sont décrits tels qu'ils sont réellement. Pour le moment, concentrons-nous sur Satan. Quelles sont ses caractéristiques? Premièrement, c'est un grand dragon rouge. Il est appelé grand à cause de son pouvoir considérable. Il tient toutes les nations du monde sous son contrôle. Dans l'Évangile de Matthieu chapitre 4, versets 8 et 9, il les offre à Jésus s'il consent l'adorer. En fait, Satan fera tout pour être adoré car il veut prendre la place de Dieu. L'adoration est pour Satan l'équivalent de l'héroïne pour l'héroïnomane. Un démon se délectera de l'adoration d'un homme, mais un bon ange détournera son regard devant cette idolâtrie, comme nous le verrons au chapitre 22, versets 8 et 9. Deuxièmement, il est rouge du sang de ses victimes, car il est un meurtrier dès le commencement, comme l'affirme l'apôtre Jean, chapitre 8, verset 44. Il n'accorde aucune importance à la vie humaine. Pour lui, les hommes sont des marionnettes dont il se sert pour son plaisir. Cette attitude contraste fortement avec celle de Jésus, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Troisièmement, le terme « dragon » se réfère à son caractère vicieux. Comme l'homme, Lucifer a été créé bon par Dieu, comme on peut le voir dans Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 19. Mais, ayant été séduit par le mal, il a sombré dans les profondeurs de la dégradation. Il est maintenant l'être le plus dangereux de toute la création. Il est l'ennemi juré de tous les enfants de Dieu. Satan connaît son destin ultime. Il sait que l'enfer l'attend. C'est pourquoi il cherche à entraîner le plus d'hommes possible avec lui. Mais le chrétien est scellé par Dieu et il échappera à ce funeste destin. Satan fera donc tout pour nuire au témoignage des chrétiens. Car si ceux-ci peuvent proclamer bien haut la joie de leur délivrance, le destructeur perdra encore davantage de victimes. Un autre personnage semblable à Satan nous sera présenté au chapitre 13. Il s'agit de la bête. Nous verrons plus tard que trois entités sont contrôlées par Satan et tirent leur puissance de lui. La première est la bête, la deuxième est l'antéchrist et la troisième est l'Empire romain restauré. Plus tôt, nous avons vu que l'Empire romain avait d'abord utilisé son pouvoir politique pour soumettre la jeune Église à d'atroces persécutions. Au bout de quelques siècles, n'ayant pas réussi en utilisant la force, l'Empire romain s'est introduit dans l'Église au temps de l'empereur Constantin. L'Empire romain a survécu ainsi à travers les siècles, bien que progressivement dévêtu de son pouvoir politique. Mais au temps de la grande tribulation, ce pouvoir terrestre lui sera redonné. Pendant qu'il en est encore temps, chers amis, allez puiser dans la puissance de Dieu pour votre salut et votre délivrance, délivrance éternelle de votre âme. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission. En lisant l'Apocalypse, chapitre 12, les versets 3 à 9, à vous tous, bonne lecture!
Merci beaucoup, Régent. Alors maintenant, on sait que la femme, le premier personnage à être introduit au son de la septième trompette de l'Apocalypse, c'est la nation d'Israël. Et on sait que le deuxième personnage à être introduit, c'est le dragon rouge, c'est Satan. Mes amis, je trouve qu'on en a beaucoup appris à ce sujet, au sujet de ces deux personnages aujourd'hui. Pas vous? C'est vraiment intéressant et c'est encourageant de pouvoir bien situer les personnages et aussi les époques qu'on retrouve dans ce livre de la Bible. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est de voir l'amour et la fidélité de Dieu, notre Créateur, notre Sauveur, notre Seigneur, à travers les temps et jusque dans le futur. On a encore vu aujourd'hui que l'homme ne réussira jamais à apporter la paix sur cette terre, que seul le Seigneur Jésus pourra l'apporter. Jésus, le Prince de paix. Ça me fait penser à un chant bien connu de plusieurs croyants. Ça fait pas mal longtemps qu'il a été écrit, mais de temps à autre, j'aime ça le sortir de nouveau pour le chanter à l'église ou simplement toute seule lors de mon culte personnel à la maison. Permettez-moi de vous en citer les paroles. Prince de paix, de vie, de sagesse, source de joie, d'amour, de tendresse, tu remplis mes jours, tu es là, ô Jésus, merci. Quand dans la nuit, je cherche un refuge, quand je t'appelle, cédant à la peur, tu m'entends, c'est toi, sans tarder, tu m'ouvres tes bras. Et quand la joie fait chanter ma bouche, quand ton soleil éclaire ma route, je te prie aussi, je te loue et tu me souris. Prince de paix, de vie, de sagesse, source de joie, d'amour, de tendresse, tu remplis mes jours, tu es là, ô Jésus. Merci. Mon ami, est-ce que Jésus remplit tes jours comme il est cité dans ce chant? Est-ce que c'est lui que tu appelles quand tu as peur? Est-ce que c'est son soleil qui éclaire ta route? Jésus est-il pour toi une source de joie, d'amour, de tendresse? Sinon, sache qu'il veut devenir tout ça pour toi. Mon ami, Jésus frappe à la porte de ton cœur en ce moment. Laisse-le entrer. Il y a juste une poignée à cette porte et elle est en dedans, au-dedans de toi. Et pour l'ouvrir, tu n'as qu'à placer ta confiance en Jésus seul pour le pardon de tes péchés. Il a payé ta dette à la croix. Il a souffert pour toi. Il est mort pour toi. Et le troisième jour, il est ressuscité vivant. Et tu n'as qu'à lui demander de te sauver, de te donner la vie éternelle. Si tu crois en lui de tout ton cœur, il va te faire ce cadeau. Aujourd'hui, en ce moment même, je t'encourage à ne pas attendre demain. Tu ne sais même pas si tu vas vivre demain. Alors, mon ami, ouvre ton cœur à Jésus, ce Prince de paix. Laisse-le entrer. Il est doux, il est humble de cœur. Il te donnera le repos pour ton âme et l'assurance de passer l'éternité dans sa présence. Reçois-le maintenant. Laisse-le pas frapper plus longtemps. Ouvre la porte, ouvre-la bien grande pour ton Sauveur et pour ton Seigneur.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Réjean. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé. Et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.